RFI midi, à Paris 10h, en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous. En Allemagne, le parti AfD classé extrémiste de droite par les renseignements intérieurs. Une mesure qui doit permettre notamment un placement sous surveillance intensive du parti arrivé deuxième aux dernières élections législatives. On fait le point dans un instant avec notre correspondante à Berlin. Alors qu'Israël impose un blocus de l'aide humanitaire depuis 2 mois sur la bande de Gaza, des militants affirment que l'armée israélienne a tiré sur un navire chargé d'aide dans les eaux internationales au large de Malte, navire qui voulait contester le blocus israélien. En football, c'est un sprint qui se dessine alors que la fin de la saison approche. Derrière Paris, intouchable, les clubs français jouent les coudes pour les places européennes. Le renseignement intérieur allemand a donc classé ce matin l'ensemble du parti Alternative pour l'Allemagne comme un mouvement extrémiste de droite. En principe, l'AfD peut donc désormais être placée sous surveillance. Le pas franchi ce matin par les renseignements intérieurs pourrait donc avoir des conséquences majeures sur la vie politique allemande, et ce à quelques jours de la prestation de serment du chancelier conservateur Friedrich Merz. Les explications depuis Berlin de Nathalie Versieux.
L'idéologie de l'AfD dévalorise des groupes entiers de la population allemande et porte atteinte à leur dignité humaine, a tranché ce matin l'Office de protection de la Constitution. La conception du peuple basée sur l'ethnicité qui prédomine au sein du parti n'est pas compatible avec l'ordre démocratique libre. Fin de citation. Concrètement, l'Office pourra désormais surveiller jusqu'aux communications privées des membres de l'AfD, un coup dur pour le parti arrivé second aux élections avec plus de 20% des voix. Le premier parti d'opposition revendiquait des postes d'influence au sein des commissions parlementaires du Bundestag. Il sera plus aisé encore au parti traditionnel de les lui refuser. Surtout, la décision des renseignements intérieurs est une étape indispensable vers la voie d'une interdiction de l'AfD qui faisait débat en Allemagne depuis des années. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
À Gaza, les opérations humanitaires au bord de l'effondrement total. Selon la Croix-Rouge, depuis 2 mois, aucune aide humanitaire n'a été autorisée par Israël à entrer dans le territoire palestinien. Pour les civils gazaouis, chaque jour est une lutte pour survivre au danger des combats et supporter les conséquences des déplacements incessants, pointe le directeur adjoint des opérations du CICR. Hier, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé avait lui qualifié ce qu'il se passe à Gaza d'abomination. C'est dans ce contexte qu'un bateau humanitaire appartenant à la flottille pour la paix a été pris pour cible cette nuit au large de Malte. Selon l'organisation, le bateau devait prendre la mer pour Gaza ce matin pour contester justement ce blocus humanitaire israélien lorsqu'il a été attaqué par des drones. Claude Léostic est la représentante de la flottille pour la paix en France. Elle raconte ce qui s'est passé au micro de Muriel Paradon.
Le bateau attendait dans les eaux internationales, au large de Malte, et à 0h23 exactement, 2 drones ont attaqué le bateau, c'est-à-dire qu'ils ont fait 2 tirs, l'un qui a touché les installations du moteur, en gros, et l'autre, la coque, où il a fait une brèche importante, et le bateau prend eau maintenant. Il y a à bord 30 internationaux, des militants, des personnalités, etc. Greta Thunberg était supposée monter à bord ce matin. Alors, ce qui est absolument scandaleux, c'est que le bateau a émis immédiatement un appel de détresse et que les autorités maltaises n'y ont pas répondu. Or, le droit maritime international impose qu'on aille secourir un bateau en détresse et rien n'a été fait. Donc, ils sont en train d'essayer de colmater. Mais il n'empêche que c'est une attaque très grave. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ça aurait pu être encore plus grave que ça ne l'est.
Et en 2010, Israël avait déjà lancé un assaut meurtrier contre un navire d'une flottille internationale d'aide humanitaire venant de Turquie pour tenter de briser à l'époque déjà le blocus israélien imposé à Gaza. L'opération avait à l'époque coûté la vie à 9 militants turcs. L'armée israélienne qui a bombardé les abords du palais présidentiel syrien à Damas ce matin, c'est un message clair envoyé au régime syrien, déclaration du premier ministre israélien et de son ministre de la Défense. Nous ne permettrons pas que les forces syriennes menacent de quelque manière que ce soit la communauté druze. Des heurts ont eu lieu au sud de Damas entre des combattants druzes et des groupes armés liés au pouvoir sunnite du président Ahmad al-Shara. Des affrontements qui ont fait une centaine de morts. Le chef religieux de la minorité a accusé le pouvoir à Damas de génocide. Les pressions économiques menacent la liberté de la presse dans le monde. Fermeture massive de médias, domination des GAFA, mainmise des milliardaires. L'ONG Reporters sans frontières pointe notamment une dégradation inquiétante aux États-Unis de la situation sous le mandat de Donald Trump, le président américain qui a d'ailleurs signé hier un nouveau décret visant à réduire le financement de deux médias publics, la radio NPR et la chaîne de télévision PBS, qu'il accuse de partialité. D'après le classement annuel de RSF, les journalistes sont confrontés à des situations problématiques, difficiles, voire très graves dans les trois quarts des 180 pays évalués. Les Indiens devront préciser leur caste d'appartenance lors du prochain recensement. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du gouvernement de Narendra Modi. Le système des castes divise la société indienne en sous-catégories très hiérarchisées et joue encore un rôle essentiel dans la vie et la politique du pays. Lila Olkinwara, c'est une première lors d'un recensement depuis l'indépendance.
Le dernier recensement des castes remonte à 1931. À cette époque, l'Inde est encore une colonie britannique. Après l'indépendance, les gouvernements successifs choisissent de ne pas réitérer l'expérience. Trop de complexité administrative et peur d'attiser des tensions dans la société. Il faudra attendre 2011 pour qu'une nouvelle tentative de recensement voie le jour, mais celui-ci ne sera jamais rendu public. Ses résultats sont prétendument erronés. Alors pourquoi recenser les castes aujourd'hui? Pour le gouvernement, cette décision doit permettre à toutes les catégories défavorisées de s'émanciper. Dans le pays le plus peuplé du monde, elle reste un facteur déterminant de la position sociale, alors même que la Constitution interdit les discriminations de castes. Pour réduire l'écart entre les catégories, des quotas de personnes issues de castes défavorisées sont déjà imposés à certaines institutions publiques et aux universités. Avec cette annonce, le gouvernement estime aller dans le sens de ses politiques de discrimination positive. Mais pour ses détracteurs, il s'agit plutôt d'une mesure électorale à quelques mois des élections législatives partielles. D'autant plus que le parti du Premier ministre Narendra Modi, le BJP, est traditionnellement opposé au recensement des castes.
En France, 21 suspects présentés à la justice ce vendredi pour des attaques contre des prisons et des agents pénitentiaires. Parmi eux figurent 2 mineurs et 7 personnes sont actuellement en détention. Derrière ces attaques contre des établissements pénitentiaires, l'ombre des narcotrafiquants de la DZ Mafia. 15 actions au total ont été menées ce mois-ci contre des prisons et des agents pénitentiaires, selon le ministre de la Justice. Eh bien, il avait imputé dès le départ ces attaques à la criminalité organisée, notamment parce que le Parlement a adopté définitivement mardi une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les narcotrafiquants. En football, la fin de la saison approche. En Ligue 1, on sait depuis longtemps que le PSG sera sacré champion de France. En revanche, le suspense reste entier pour les places européennes. Alors que la 32e journée débute ce vendredi avec Nice-Reims, la bagarre pour la qualification à la Ligue des champions est toujours aussi intense.
6 équipes en 4 points et un sprint final complètement fou. À 3 journées de la fin du championnat, l'OM et Leonardo Balerdi n'ont toujours pas la garantie de finir sur le podium. Mais le défenseur argentin adore ce genre de scénario.
Maintenant, c'est le moment plus joli pour jouer, non ? Quand il y a cette pression, cette chose. J'aime trop jouer ce type de match.
Deuxième de Ligue 1 avec 58 points, l'OM est le mieux placé avant d'aller à Lille ce week-end. Troisième à seulement 2 points des Phocéens. Ce choc pourrait donc tout remettre en question. De toute manière, pour le nordiste Thomas Meunier, son équipe doit presque réaliser un sans faute.
On joue 2 matchs à domicile, on doit faire le nécessaire. Vraiment, c'est nous et nous-mêmes. mais on doit faire le job. Franchement, c'est au minimum 7/9 sur les 3 derniers matchs si on veut espérer aller directement en Champions League.
L'objectif, c'est donc de terminer sur le podium pour espérer jouer cette Ligue des Champions ou quatrième pour être barragiste. Place occupée pour l'instant par Monaco qui se rend à Saint-Etienne. De leur côté, après un début de saison compliqué, Lyon et Corentin Tolisso sont toujours dans la course.
Pour avoir cette régularité sur les derniers matchs, essayer de bien finir cette année. Et voilà, si on peut aller en Ligue des Champions, on pourra être fier de notre saison.
L'OL est 5e avec 54 points, tout comme Nice et Strasbourg, respectivement 6e et 7e. Quel que soit le club, le faux pas est donc exclu ce week-end pour continuer à rêver.
Cédric Théolivera.